Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du Yémen et de la guerre qui s'y déroule depuis au moins une décennie désormais, j'ai le plaisir d'être en ligne depuis le Canada avec Thomas Junot, professeur d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa, spécialiste du Moyen-Orient et notamment du Yémen mais aussi de l'Iran. Ce qui a son importance, comme on le verra, et je vais préciser que vous êtes aussi l'un des animateurs de Conseil de sécurité, qui est l'un des podcasts francophones de grande qualité sur les questions stratégiques, que vous produisez avec Sarah Myriam Martin-Brûlé, autre universitaire canadienne, dont les auditeurs se souviendront peut-être qu'elle était passée dans le podcast il y a quelques années maintenant pour nous parler de l'ONU. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour, merci.
Alors, pour replacer les enjeux, je vais simplement souligner que le Yémen, c'est vraiment l'une des guerres très longues et très meurtrières de ce début de XXIe siècle, puisque on estime qu'on est entre 350 et 400 000 morts depuis 2014, pas seulement par les combats évidemment, mais aussi et surtout par le désastre humanitaire qui leur est corollaire. Et ça... Ça se fait si ce n'est dans une indifférence totale, comme on l'entend parfois, mais en tout cas dans une réelle obscurité et opacité, parce que c'est un conflit qui est réellement difficile à comprendre. Il y a une échelle qui est très locale, avec une rébellion clanique et religieuse que sont les Houthis, qui existent depuis des décennies. Il y a une échelle très régionale, avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui vivent ça comme une menace sécuritaire de premier plan et qui interviennent militairement dans le pays depuis 2015, avec des résultats pour le moins très mitigés. Et de l'autre côté, un appui de la part de l'Iran des Houthis, parce que ça sert leurs intérêts, on y reviendra évidemment. Et puis il y a aussi une échelle globale, parce que tout ça peut aussi se comprendre dans un grand jeu à l'échelle mondiale entre les pays occidentaux, les alliés de l'Arabie Saoudite, et puis l'Iran et ses proxys. Mais aussi parce que je crois que ça pose des questions de fond, et même très théoriques, sur les limites des interventions militaires, notamment dans des situations humanitaires précaires, et sur les leviers de sortie de crise. Mais dans le fond, je me suis dit que le premier problème, c'était probablement le très grand manque de familiarité, en tout cas vu de France, avec le Yémen, et que partant de là, il est évidemment un peu difficile de comprendre une crise et ses enjeux religieux, politiques et stratégiques. Donc, si on part un peu de zéro, bon, qu'est-ce que c'est que ce pays, Thomas Junot ? Comment est-ce qu'il est composé et qu'est-ce qu'on y trouve ? Je vais simplement dire l'évidence cartographique qui est que c'est le coin sud-ouest de la péninsule arabique, une petite bande de quelques centaines de kilomètres de largeur qui donne à la fois sur la mer Rouge et sur le golfe d'Aden et qui contrôle le détroit qui est le Bab el-Mandeb avec Djibouti en face. Mais au-delà de ce descriptif très basique que n'importe qui peut faire en se saisissant d'un atlas, à quoi est-ce que ça ressemble le Yémen, Thomas Junot?
Alors, je vais commencer déjà en mentionnant quelques éléments importants. Juste pour aller un peu plus loin sur la base géographique, une des premières choses qu'il faut dire quand on parle de la géographie du Yémen, c'est le fait que le pays n'a que deux voisins terrestres, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite au nord et l'Oman à l'est. Et déjà, ça, c'est quand même important. Ce n'est pas un pays qui est frontalier avec d'autres puissances dans la région, par exemple. Comme vous l'avez dit, un autre élément important, c'est au niveau maritime, donc à l'ouest du Yémen, la mer Rouge, au sud, le golfe d'Aden, avec le tout petit, très étroit détroit du Bab el-Mandeb qui les sépare. Donc, c'est un, comme on dit en anglais, un choke point, un passage stratégique par lequel beaucoup de commerce maritime, du pétrole, mais d'autres choses, notamment des marchandises qui partent de l'Asie et qui s'en vont vers l'Europe en passant par le canal de Suez au nord. Donc, ça passe par ce détroit-là. Cet aspect-là est intéressant. On pourra en parler plus tard quand on va rentrer plus dans le détail de la guerre, mais la vicinité du Yémen avec le Bab el-Mandeb, ce n'était pas un élément dont on parlait beaucoup jusqu'à récemment. Mais aujourd'hui, c'est quand même devenu plus important. De l'autre côté du golfe d'Aden, de la mer Rouge, Le Yémen est aussi voisin de la Corne de l'Afrique, donc Djibouti, Érythrée, Somalie. Et ça aussi, c'est un élément important. Alors, historiquement, culturellement, il y a eu plusieurs liens entre le Yémen et la Corne de l'Afrique. Mais quand on essaye de comprendre pourquoi le conflit aujourd'hui est un peu ignoré, comme vous l'avez dit en introduction, cet aspect-là est important. Le fait que le Yémen, parmi ses voisins, autre l'Arabie saoudite, il n'y ait pas de puissance importante, c'est important. Ça a un impact sur le fait qu'on ignore généralement ce conflit-là. Si on compare, par exemple, avec la guerre en Syrie, dont on a beaucoup parlé, évidemment, en Europe, chez vous, mais même ici en Amérique du Nord, la guerre en Syrie, parce que la Syrie est voisine de la Turquie, membre de l'OTAN, la Syrie par la mer Méditerranée est tout près de la Grèce et de l'Europe du Sud-Est. Donc, au niveau de la crise des réfugiés, par exemple, il y a eu un impact majeur. Tous ces liens-là, on l'a pas, on les a pas avec le Yémen. Alors ça explique un peu aussi pourquoi est-ce que le pays est plus facilement oublié. Quelques autres points rapidement sur la géographie. Premièrement, le Yémen fait quand même 530 000 km² en termes de superficie. Et ça, c'est à 20 000 km² près la grandeur de la France. Alors, ce n'est pas un gros pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés, mais ce n'est pas tout petit non plus. C'est quand même un pays qui a une assez grosse surface, une assez grosse superficie. De cette surface-là, la majorité de la population est au nord-ouest, dans des régions qui sont très montagneuses. C'est des montagnes très arides qui montent à plus de 3 000 mètres. Le gros de la surface à l'est est désertique, beaucoup moins peuplée, ce qui explique entre autres pourquoi les relations avec l'Oman, qui est le voisin à l'est, sont plus limitées parce que même s'il y a une frontière de près de 1 000 km entre les deux, c'est une région extrêmement vaste, très désertique et donc les échanges sont là, mais ils sont quand même limités.
Alors, l'autre chose qui saute aux yeux, évidemment, en regardant une carte, c'est naturellement la proximité avec l'Arabie saoudite que vous avez soulignée. C'est tout bête, mais on se demande un peu instinctivement, est-ce que ça signifie aussi des ressources naturelles comparables? Puisque, évidemment, on sait que l'Arabie saoudite est essentiellement un désert, mais un désert dans lequel on trouve beaucoup de choses tout à fait intéressantes, notamment dans le sous-sol. Et puis aussi, ensuite, enfin, quel lien et quelle relation se dessinent entre les deux pays, historiquement au sens large, mais aussi et surtout à l'échelle du XXe siècle?
Au niveau des ressources naturelles, premièrement, la réponse est non. Le Yémen n'est pas et n'a jamais été un producteur important de pétrole. C'est quand même une nuance importante parce que dans la région, outre l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, le Koweït, même l'Irak, c'est des gros producteurs de pétrole ou de gaz naturel ou les deux, pas le Yémen. À son pic, le Yémen produisait un peu moins d'un demi-million, pardon, de barils de pétrole par jour, il y a quelques décennies de ça. Ce qui était non négligeable et assez pour faire entrer quand même un peu d'argent dans le pays. Mais si on compare un pays comme le Koweït ou les Émirats vont en produire 3, 4 millions de barils par jour avec des populations évidemment beaucoup plus petites, l'Arabie saoudite, on monte à environ 9 ou 10, parfois même un peu plus. Alors, à moins d'un demi-million de barils de pétrole par jour pour une population plus importante, aujourd'hui environ 30 millions, ça fait qu'en termes de revenus per capita, c'est pas important. Et ça, c'était au pic, même avant la guerre qui fait rage dans le pays aujourd'hui, qui évidemment a affecté la production de pétrole beaucoup, la production diminuait parce que les réserves étaient limitées. Alors, non seulement c'était important pour comprendre un peu la pauvreté, l'absence de développement économique dans le pays, mais aussi quand on pense aux perspectives de reconstruction post-conflit. On en parlera tantôt, je ne suis pas optimiste du tout quant aux perspectives d'un scénario post-conflit, mais un jour ça va arriver. Le pétrole, les ressources naturelles, il y en aura un peu, mais pas assez pour financer la reconstruction d'une façon significative.
Donc
Au niveau de la relation.
dans une certaine mesure, c'est le coin un peu déshérité de cette péninsule arabique, avec les autres qui se taillent la part du lion et la manne pétrolière. Et là, c'est le petit royaume, enfin traditionnellement, ça a été longtemps un royaume montagneux, mais qui n'intéresse réellement personne en termes de ressources naturelles.
L'image au début de la question est très pertinente, c'est-à-dire l'espèce de coin oublié, marginalisé de la péninsule arabique. Les six autres pays de la péninsule arabique, donc l'Arabie saoudite, Qatar, Émirats, Oman, Koweït, Bahreïn, sont membres du Conseil de coopération du Golfe. Ce sont des monarchies de différentes formes, mais des monarchies quand même, absolument pas démocratiques, productrices de pétrole. L'Oman, Bahreïn, pas tant que ça, mais un peu quand même, un peu plus que le Yémen. Ce sont des systèmes qui ont beaucoup en commun, qui ont leur rivalité, qui ont leur tension, évidemment. Mais le Yémen, non seulement n'est pas une monarchie, ne l'est plus depuis les années 1960, est beaucoup moins riche en hydrocarbures et, historiquement, si on regarde au niveau des dernières décennies, a vraiment été marginalisé, là, et mis de côté par les autres, ses voisins sur la péninsule.
Pardon, je vous ai coupé peut-être sur la donc sur cette relation aux grands voisins saoudiens qui évidemment se taillent la part du lion aussi dans les relations, dans les équilibres politiques à l'échelle de la péninsule arabique. Quelles sont ces relations, disons, traditionnellement avec ce petit coin tout oublié de la péninsule?
Alors, si j'en parle en termes généraux, pour la guerre plus précisément dans les dernières années, on va y arriver tantôt, mais historiquement, si on regarde donc depuis les années 1960 en particulier, quand l'Arabie saoudite émergeait tranquillement comme puissance majeure en raison de ses richesses en hydrocarbures, le Yémen émergeait là, dans les formes de république au nord. L'Arabie saoudite regardait le Yémen, c'était son flanc sud vulnérable. Sa frontière méridionale, source d'anxiété, pour deux raisons. Et là, je parle un peu en termes schématiques. D'un côté, pour l'Arabie saoudite, si on regarde en termes un peu abstraits, c'est le seul autre pays sur la péninsule qui a une population comparable. Les 50 membres du Conseil de coopération du Golfe, non seulement géographiquement sont petits, mais au niveau de leur population, sont tout petits comparés à l'Arabie saoudite qui a, dépendant de si on compte les citoyens saoudiens ou non, entre 20 et 30 millions d'habitants. Le Yémen aussi en a près de 30, même si on ne connaît pas les chiffres exactement. Donc, potentiellement, le Yémen peut être le seul rival au niveau de la grosseur de la population à l'Arabie saoudite. Donc, d'un côté, pour l'Arabie saoudite, quand elle pensait en termes très stratégiques au Yémen, elle voyait un rival potentiel dans l'éventualité où un État fort émergerait au Yémen. Donc, ça, en partant, pour la sécurité saoudienne, dans un sens abstrait, c'est un scénario qui est évidemment très négatif. Mais en réalité, c'est un scénario qui n'a jamais été plausible parce que le Yémen a toujours été un pays très faible, très fragile. À l'autre extrême, évidemment, l'autre scénario catastrophique pour l'Arabie saoudite, c'est un effondrement du Yémen. C'est un État effondré dans lequel des groupes terroristes ou autres pourraient s'installer et menacer la sécurité saoudienne. Et ça, on l'a vu à différents degrés, non seulement dans les dernières années, mais même avant ça, avec, par exemple, l'installation d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique au Yémen. Et même dans un scénario autre que l'effondrement total du Yémen, même si le pays demeure fragile, si un groupe ou un gouvernement hostile s'y installe, et c'est ça qu'on a vu plus récemment, ça aussi, c'est un scénario négatif pour l'Arabie saoudite.
Alors, la deuxième étape ensuite, c'est de comprendre peut-être cette rébellion houthie qui est à la fois régionale, clanique et religieuse. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on désigne par ce terme de houthie et quand est-ce que c'est un mouvement qui apparaît, qui se forme et qui a une vraie signification politique à l'échelle, disons, du Yémen et même plus régionalement?
Juste pour prendre une minute de recul très historique avant de répondre spécifiquement à la question sur qui sont les houthistes et comment est-ce qu'ils émergent, pendant environ 1000 ans, donc du 9e siècle jusqu'aux années 1960, le Yémen est gouverné, là ici il faut utiliser le mot gouverné avec un peu de flexibilité, par un imamat, donc un royaume, zaïdite, qui est une minorité au sein de la famille chiite de l'islam. Des zaïdites chiites, il y en a au Yémen et à peu près nulle part ailleurs. C'est environ 40% de la population au Yémen. Évidemment, quand je dis pendant 1000 ans, ça a été un contrôle sur le territoire qui a beaucoup fluctué, là, et donc c'est le territoire qui contrôlait la puissance du gouvernement. Dans les années 1960, l'imamat zaïdite est renversé par une révolution républicaine soutenue par l'Égypte de Nasser. Il y a une guerre civile pendant quelques années, les républicains gagnent, le Yémen républicain tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. Et c'est là où l'émergence des Houthis doit être comprise, parce que l'élite zaïdite, qui venait des montagnes reculées dans le nord-ouest du pays, suite à la disparition de l'imamat et à la naissance de la République, deviennent marginalisés. Au niveau politique, évidemment, ils sont loin du pouvoir central, mais aussi au niveau économique, culturel et religieux. Et leurs sentiments de marginalisation sont légitimes, ils sont réels, dans le sens où ils sont effectivement marginalisés. Dans les années 70, 80, 90, ce sentiment-là monte. Et dans les années 90, autour du leadership charismatique de la famille Houthi, donc c'est une famille du Nord-Ouest, des descendants de cette élite-là qui dirigeait le pays auparavant, se cristallise une espèce de mouvement de protestation qui, au début, est politique, très culturel aussi, très religieux et non violent. Mais la frustration augmente. la répression par le gouvernement central républicain est de plus en plus forte. Et si on fait ça un peu rapidement, en 2004, cette frustration-là se mobilise, encore une fois, sous le leadership charismatique de la famille Al-Houthi, dans une rébellion qui devient une insurrection armée. Donc, de 2004 à 2010, il y a 6 rondes de combats de plus en plus violents, de plus en plus brutalement réprimés par le gouvernement central. À ce moment-là, c'est sûr que on commence à se rendre compte que les Houthis sont eux-mêmes très brutaux, très corrompus, absolument, mais il faut quand même garder en tête que jusqu'à ce moment-là, les revendications, les grievances, comme on dit en anglais, qui ont mené à l'émergence de ce mouvement-là sont légitimes. Et la répression auquel ils font face est vraie.
Mais c'est un peu compliqué à dire, mais... Quel genre de guérilla est-ce que c'est? C'est-à-dire, est-ce que c'est des guérillas tribales dans les montagnes comme on a pu en connaître en Afghanistan? Est-ce que ce sont des mouvements plus organisés qui contrôlent peut-être certains centres urbains? Si on essayait d'avoir un tableau un peu approximatif de à quoi ça ressemble la guerre au Yémen, disons, depuis le début des années 2000, c'est quel genre de combat, quoi?
Alors, au début, les Houthis, c'est une guérilla
des montagnes, c'est une milice tribale comme il y en a plusieurs autres au Yémen, armée seulement de Kalachnikov, de AK-47, avec des armes légères seulement, qui fait face à un gouvernement, évidemment, à une armée nationale beaucoup mieux équipée. Mais au fil des années 2000, pendant les 6 rondes de combat de 2004 à 2010, cette rébellion-là s'organise. Il y a un marché noir de l'armement au Yémen qui est très, très sophistiqué. Donc, les Houthis peuvent s'acheter beaucoup d'armes comme ça. Par la corruption de plusieurs dirigeants armés, ils réussissent à obtenir des armes comme ça. Donc, pendant ces années-là, la rébellion s'organise. Elle devient plus forte, mieux équipée, mieux entraînée aussi. Elle acquiert beaucoup d'expérience pendant ces années-là. Mais ça demeure une milice tribale quand même assez rudimentaire là, au niveau de la sophistication de son armement.
Enfin, un autre élément, enfin peut-être une deuxième force dont il faut peut-être dire un mot tout de suite, c'est la mouvance djihadiste et notamment Al-Qaïda qui aura plusieurs noms. Alors c'est d'abord Al-Qaïda au Yémen, puis ça deviendra ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Mais on peut dire que le Yémen est vraiment un des endroits où ils sont historiquement puissants, c'est un des bastions d'Al-Qaïda à l'échelle globale. Alors comment est-ce qu'ils émergent et qu'est-ce qu'ils représentent dans l'équilibre, disons, politique du Yémen?
Al-Qaïda a effectivement une présence historique importante au Yémen. On a vu, par exemple, en 2000, l'attentat sur le USS Cole, qui était un navire américain qui était au large de Aden, donc au sud du Yémen, dans le golfe d'Aden, qui a causé la mort, si je me rappelle bien, de 17 marins. C'était une des attaques importantes là, qui a cristallisé la montée en puissance d'Al-Qaïda à la fin des années 90 et qui nous a emmenés jusqu'au 11 septembre. Pendant les années 2000, il y a plusieurs factions, plusieurs cellules d'Al-Qaïda au Yémen, en Arabie saoudite. Pendant les premières années après le 11 septembre, l'Arabie saoudite réprime fortement la présence d'Al-Qaïda. Beaucoup de ses membres se rendent vers le Yémen. Plusieurs sont des vétérans de la guerre en Afghanistan, du djihad contre les Soviétiques dans les années 80. En 2009, donc, ça nous amène à la naissance formelle d'ACPA, comme vous l'avez dit, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui unifie plusieurs cellules, plusieurs factions d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. À ce moment-là, le gouvernement américain considère que ACPA est la faction régionale d'Al-Qaïda, de la mouvance globale, qui présente la menace la plus importante au territoire américain. C'est comme ça que le gouvernement américain va souvent le définir. On a vu plusieurs attentats manqués, qui ont passé proche de réussir. En 2009, à Noël, par exemple, un individu qui avait caché des explosifs dans ses sous-vêtements a essayé de se faire exploser alors que son avion allait atterrir à Chicago. Il s'en est sorti avec des blessures très douloureuses, mais a manqué son coup finalement. Il y a eu d'autres attentats qui ont passé proche de réussir. Charlie Hebdo à Paris, après ça, c'est aussi ACPA, et on pourrait donner quelques autres exemples. Aujourd'hui, ACPA est encore présent, est encore relativement fort, donc pose une menace aux États-Unis, aux pays occidentaux, mais ACPA est empêtré un peu dans la guerre civile au Yémen qui, même si d'un côté lui offre beaucoup d'instabilité, donc l'absence d'un gouvernement central qui pourrait lutter contre elle, en même temps, ça rend une organisation plus sophistiquée quand même assez complexe.
C'est ce que j'allais dire, c'est quelle relation exactement entre ACPA et les Houthis? On se doute que c'est pas exactement la même chose religieusement, l'islam zaïdiste et le djihadisme, enfin la version djihadiste d'Al-Qaïda. C'est-à-dire, est-ce que c'est une opposition? Est-ce que c'est après tout une cohabitation dans le sens où ils ont un ennemi commun qui est le gouvernement central? Comment est-ce que ça se gère à l'échelle du Yémen?
À l'origine, comme vous l'avez dit, il y avait effectivement une rivalité simplement au niveau idéologique entre les Houthis, qui sont non seulement chiites zaïdites, mais assez orthodoxes, assez rigoristes dans leur interprétation du zaïdisme, et évidemment Al-Qaïda, des extrémistes sunnites. Il y a eu plusieurs moments de conflit, de confrontation entre les deux au fil des années. Plus récemment, c'est difficile de définir la relation entre les deux. Le mot cohabitation est trop fort, certainement. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs rapports dans des médias, des analystes au Yémen sur le terrain qui ont fait rapport de peut-être des fois certains moments précis, ponctuels de cohabitation, même si c'est pas vraiment un mot que j'aime, où ils ont accepté chacun fait son affaire de son côté en gros. Mais ça demeure des rivaux, ça demeure des ennemis qui sont largement dans des régions du pays qui ne sont pas frontalières. Alors, Aqaba aujourd'hui est surtout vers le sud et le sud-est, alors que les Houthis contrôlent un grand morceau du nord-ouest quand même, mais il y a relativement peu de friction entre les deux.
Alors là, on a le tableau d'un Yémen qui est, on le voit structurellement, en équilibre très précaire, déjà au début de la décennie 2010. Et là se déclenche évidemment le grand événement politique et sécuritaire du Moyen-Orient au sens large, disons, que sont les printemps arabes à partir de 2011, qui va encore beaucoup modifier, qui va donner encore un grand coup de pied dans cette situation. Donc voilà, comment est-ce que les printemps arabes s'étendent jusqu'au Yémen et comment est-ce que ça se répand en quelque sorte dans un pays qui a quand même un certain nombre de caractéristiques assez différentes des pays originels et des foyers originels des printemps arabes, que ce soit la Tunisie, l'Égypte, etc., ou la Turquie, enfin bon, des endroits où c'est plutôt dans les centres urbains que ça se répand, etc. Et pourtant, on voit que ça s'étend jusqu'au Yémen et que ça devient une contestation du pouvoir central. Donc comment est-ce que les printemps arabes pénètrent dans ce coin de la péninsule arabique?
Alors, fin 2010, début 2011, la violence commence, les protestations, commencent en Tunisie, en Égypte, ça sera en Syrie, ça sera au Bahreïn, ça sera assez rapidement au Yémen. Au début, ce qu'on voit au Yémen, c'est ce qu'on voit à différents degrés ailleurs dans la région, c'est-à-dire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de manifestants à la rue. C'est monsieur et madame tout le monde, c'est la société civile, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. On voit même des représentants des Houthis à la rue, à Sanaa, dans certaines autres grandes villes du pays, qui protestent pour des raisons semblables. Évidemment, le contexte est différent au Yémen par rapport à l'Égypte ou à la Syrie, par exemple, mais à la base, on demande la dignité, on demande la représentation, la fin d'un gouvernement corrompu, etc. Ce qui se passe au Yémen assez rapidement, c'est qu'on voit des membres influents du régime, donc dirigé par le président depuis 1978, Ali Abdullah Saleh, qui font défection. Des unités complètes de l'armée, des diplomates, des partis politiques qui étaient alliés au président, qui font défection, qui annoncent leur opposition au président et qui, de facto, prennent le contrôle de ce qu'on appelait la révolution à ce moment-là. Donc, la ligne de fracture, et ça, on voit ça dès le printemps 2011, l'été 2011, la ligne de fracture principale n'est plus entre le gouvernement et le peuple, la rue, elle est entre ceux qui demeurent loyaux au président Salé et ceux qui s'opposent à lui. Il y a encore des manifestants à la rue, mais politiquement, ils sont marginalisés. La tension monte, la violence commence à se propager un peu et on en arrive, dire ça rapidement, à l'automne 2011, sous l'égide des Nations unies, avec le soutien des États-Unis et de l'Arabie saoudite, on en arrive à un accord qui mène à la démission du président Salé. On lui permet de rester au pays avec une immunité. Il garde le contrôle de plusieurs unités loyales à lui dans l'armée, dans les services de sécurité, plusieurs milices tribales. Il a un coffre de guerre de plusieurs milliards de dollars, mais il quitte la présidence. Il est remplacé par son vice-président, Hadi, qui devient formellement président au mois de février. À ce moment-là, ce que l'accord prévoit, c'est un processus de dialogue national qui regrouperait plus de 500 membres de la société civile, de l'élite politique, dans une grande conférence, un dialogue national qui devrait en arriver à une nouvelle constitution. Au début 2012, certaines personnes sont un peu optimistes quand même. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de bouillonnement, beaucoup d'effervescence. Beaucoup de gens pensent que la solution pour stabiliser le Yémen, c'est le fédéralisme pour permettre notamment aux Houthis au nord-ouest, aux autonomistes dans le sud, à d'autres, une plus grande autonomie justement pour gérer leurs propres affaires. Mais 2013-2014, sous le poids de ces tensions, sous le poids de ces contradictions, le processus s'effondre et les Houthis, qui avaient profité de tout ce temps-là pour consolider leur pouvoir en 2011, 12, 13 dans le nord-ouest, accumuler des armements, développer leur relation avec l'Iran, on pourra en parler tantôt, frustrés par l'absence de progrès selon eux, ils en viennent à l'été 2014 à envahir, en pratique, saisir la capitale Sanaa. Et ça marque un tournant majeur.
Juste sur ces lignes de tension et sur ces clivages politiques à l'intérieur du Yémen, comment est-ce qu'il faut les comprendre? C'est-à-dire souvent, faut pas trop le faire, mais souvent c'est un prisme un peu clanique, on essaye de comprendre comme ça ces situations complexes avec des allégeances, des tribus, des clans. Et en même temps, c'est aussi une vision très orientaliste parfois des pays du Moyen-Orient, parce qu'il y a aussi des questions idéologiques, politiques, religieuses, qui ne reposent pas que sur ces espèces de prismes de tribus immémorielles. Donc comment est-ce qu'il faut comprendre, disons, cette diversité, ces oppositions politiques à l'échelle d'un pays comme le Yémen? Est-ce que c'est le fait tribal qui est fondamental, ou est-ce que ça, il y a plein de lignes de division beaucoup plus variées que ça?
Alors, quand on essaye de comprendre le portrait politique comme ça, je pense que la dernière proposition que vous avez faite dans votre question est la bonne, c'est-à-dire qu'il y a de multiples lignes de fracture. Oui, les fractures sont importantes au Yémen, on ne peut pas le nier, mais en même temps, de réduire, et ça, il y a assez, des fois on voit des références à ça dans les médias, mais de réduire à la dimension tribale l'ensemble de la politique au Yémen, ben c'est faux, c'est orientaliste ou c'est tout simplement pas vrai. Dans le cas du poids des contradictions qui ont mené à l'effondrement du processus de dialogue national, il y en a plusieurs lignes de fracture. Une de celles qui est importante, pas la seule, mais c'est cette question-là de centralisation ou non. Pour plusieurs groupes au Yémen, et j'utilise le mot groupe dans son sens le plus large, là, des acteurs, des factions, la solution doit passer par une décentralisation du pouvoir. Les acteurs locaux, que ce soit dans le sud, plus loin à l'est, au Hadramaut, ou dans le nord-ouest avec les Houthis ou d'autres, doivent être capables de gérer leurs affaires politiques, économiques, culturelles, religieuses, avec une intervention beaucoup plus limitée de l'État central.
Beaucoup d'observateurs externes, pas tous, mais beaucoup, s'entendent pour dire que ça doit faire partie d'une solution éventuelle.
Mais d'un autre côté, plusieurs acteurs à Sanaa, parmi les partis politiques qui étaient associés à la gouvernance du pays, on pense par exemple au parti islamiste Islah, qui est plus ou moins la faction locale des frères musulmans, dans ce parti-là, la tendance centralisatrice était beaucoup plus grande. Alors, il y avait beaucoup plus de résistance à
abandonner, selon leur perspective,
du pouvoir et le donner aux régions, mais en pratique à leurs rivaux. Alors ça, c'est une ligne de fracture qui était, encore une fois, pas la seule, mais aussi très importante et qui va demeurer à l'avenir. Je demeure très, malheureusement, pessimiste sur l'avenir du pays, mais comment résoudre ce dilemme-là sur la centralisation ou le fédéralisme, c'est pas évident du tout, hein.
Alors, maintenant, c'est peut-être le moment de dire un mot du rôle de l'Iran que vous avez évoqué il y a quelques minutes. On peut dire tout de suite que bon, c'est l'un des grands lieux communs quand on résume la situation un peu à l'emporte-pièce, que voilà, les Houthis seraient des agents de l'Iran, que l'Iran les soutient pour faire peser une menace sur leur ennemi très traditionnel qu'est l'Arabie Saoudite à partir du Yémen. Évidemment, on vient de voir que c'était globalement faux, que les Houthis ont un agenda propre et qu'ils animent une rébellion qui, pour des raisons qui leur sont propres et qui ne sont pas du tout téléguidées de Téhéran. Enfin, je veux dire, ça n'est pas du tout une création iranienne. En même temps, il est vrai qu'il y a un soutien matériel réel et que, par ailleurs, c'est souvent comme ça que les Iraniens procèdent, par proxy et en soutenant des forces qui servent leurs intérêts, par exemple le Hezbollah au Liban, évidemment, et que les Houthis sont, de fait, une épine dans le pied des Saoudiens, ce qui est loin de déplaire à l'Iran. Donc, voilà, comment est-ce que ça apparaît? Comment est-ce que l'Iran s'empare du sujet? Et dans quelle mesure, avec quelle intensité, est-ce qu'ils s'y investissent?
Dans votre question, vous avez très bien décrit la relation entre l'Iran et les Houthis, dans un sens large, là, au niveau de la dynamique. La première chose à dire, c'est que les Houthis ne sont pas une création de l'Iran. Les Houthis, comme on en a parlé il y a quelques minutes, sont nés du fait de revendications, de frustrations dans le Nord-Ouest, et à ce moment-là, ça se passait de manière complètement indépendante de l'Iran. C'est vrai que certains chercheurs ont identifié des premiers contacts, peut-être dès les années 1980, entre ce qui était à l'époque la jeune République islamique, qui était particulièrement zélée dans sa volonté d'exporter la révolution islamique, qui à ce moment-là venait tout juste d'arriver. Mais ces premiers contacts-là, dans les années 80, dans les années 90, étaient excessivement marginaux et n'ont pas eu d'impact. Il y a personne qui a pu démontrer un impact concret sur l'émergence des Houthis. Quand 2004 arrive, c'est-à-dire la première ronde de violence, 6 rondes de combat de 2004 à 2010, il n'y a aucune preuve que l'Iran, à ce moment-là, donnait des armes aux Houthis. Il semble que ça ait commencé un peu plus tard, 2009 peut-être, un peu avant, c'est pas clair, mais les premières indications là, concrètes, des rapports de l'ONU par exemple qui vont le dire, c'est autour de 2009, donc vers la fin de ces rondes de combat-là. Pourquoi? L'Iran, à ce moment-là, était déjà un rival de l'Arabie saoudite, donc les deux grosses puissances régionales adversaires en compétition de part et d'autre du Golfe Persique. À ce moment-là, donc autour de 2009, le Yémen pour l'Iran, c'est marginal. Les priorités de l'Iran en matière de politique étrangère, c'est l'Irak, évidemment. C'est la Syrie qui va le devenir à partir de 2011. C'est la relation avec le Hezbollah au Liban, tout de suite après la guerre de 2006. C'est la gestion de tout le dossier du programme nucléaire. C'est la sécurité dans le Golfe Persique. Le Yémen est loin derrière tout ça. Mais ça n'empêche pas. Neuf, l'Iran regarde ce qui se passe au Yémen, voit un groupe avec lequel il a des affinités idéologiques. Pas vraiment religieuse, c'est secondaire cet aspect-là. Idéologique, c'est-à-dire on n'aime pas l'Arabie saoudite en termes simples, et un groupe qui est de plus en plus hostile à l'Arabie saoudite et qui est sur la frontière méridionale, comme on en parlait au début, un peu vulnérable de l'Arabie saoudite. Donc stratégiquement pour l'Iran, le Yémen autour de ça devient un peu plus intéressant. Ça demeure secondaire, même tertiaire, mais un peu plus intéressant parce qu'on voit un intérêt. C'est après 2011, donc quand le Yémen devient beaucoup plus instable dans le contexte post-soulèvement. L'Arabie saoudite devient de plus en plus anxieuse face à cette instabilité-là. Les Houthis deviennent de plus en plus puissants. Donc, les morceaux du casse-tête s'assemblent un peu plus pour l'Iran et l'équation devient encore plus attrayante. Donc, on voit le soutien iranien qui, au début, se limitait à des petites quantités d'armes légères, un peu d'argent, un peu de conseils, autour de 2011, 2012, 2013, augmenter encore plus. Mais à ce moment-là, on demeure encore dans le domaine là, d'un soutien limité qui n'a pas un impact majeur sur le terrain. Et surtout, surtout, pour revenir au point dans votre question, ne fait pas des Houthis une marionnette de l'Iran. Alors, dans certains milieux plus agressifs, hawkish aux États-Unis, en Arabie saoudite, on va, dès ce moment-là, décrire les Houthis comme un pion de l'Iran, comme une marionnette de l'Iran. Et ça, c'est tout simplement faux. Les Houthis, oui, se rapprochent progressivement de l'Iran, acceptent avec enthousiasme de plus en plus de soutien de l'Iran, mais demeurent un acteur local avec sa propre agentivité, ses propres intérêts et relativement autonome.
De l'autre côté, c'est peut-être le moment aussi de redire un mot de la galaxie djihadiste, puisqu'on sait que c'est aussi évidemment le moment, donc là on est en 2014-2015, c'est le moment où ailleurs, en Irak et en Syrie, l'État islamique est au sommet de sa puissance. Donc voilà, on a cette situation chaotique au Yémen, juste à côté de l'Arabie saoudite. Dans quelle mesure est-ce que cette galaxie djihadiste, l'État islamique, mais aussi évidemment surtout Al-Qaïda, qui est quand même implanté depuis bien plus longtemps dans la région, profite en quelque sorte du chaos et des décombres du Yémen à ce moment-là?
Dans ces années-là, donc j'ai dit que plus récemment pour l'ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ça a été un peu plus difficile. Mais les années 2011 à 2014-15 sont plus positives pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique parce qu'à ce moment-là, le groupe peut vraiment s'implanter dans certaines régions du sud-est. Il y a même des moments distincts pendant lesquels ACPA saisit du territoire et le contrôle et le gouverne et va même créer une espèce de groupe façade qui va lui permettre de faire ça. C'est de courte durée à chaque fois. Dans un des deux cas où ça arrive en particulier, les milices soutenues par les Émirats arabes unis vont les expulser des petites villes que ces groupes-là ont saisies. Donc, ce sont des bonnes années, 2011 à 2015 environ pour ACPA. Sur la question de l'État islamique, ça, c'est une question intéressante aussi. Si on retourne en arrière, autour de 2014, là, avec l'émergence explosive de l'État islamique en Irak, en Syrie, tous les attentats qu'on voit en Europe en particulier, ailleurs, même à petite échelle ici au Canada, La question, évidemment, se pose à ce moment-là. Le Yémen étant un lieu sûr tellement important pour Aqaba, est-ce que ça va devenir un refuge aussi pour l'État islamique? Il y a effectivement une franchise au Yémen de l'État islamique qui est formée, l'État islamique au Yémen, mais assez rapidement, on se rend compte qu'elle est marginale. Elle ne va jamais grossir ou devenir importante. Et ça va, on s'en rend compte là, dès 2014-15-16, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais une de ces raisons-là, pas la seule, mais une de ces raisons-là, c'est que Aqaba elle-même ne tolère absolument pas la présence d'un rival idéologique, mais aussi politique et militaire sur le terrain. Alors, Aqaba ne va absolument pas laisser d'espace à l'État islamique au Yémen. Et ça c'est un développement là, qui était important et fascinant.
Oui, on sait que les relations entre Al-Qaïda et l'État islamique, il y a eu quelques petites exceptions au Sahel à une période, mais d'une manière générale, c'est très loin d'être une entente, c'est globalement une guerre ouverte à l'échelle mondiale. يدك على زنادك تمحي معالمهم يوم الحساب اليوم والنصر للمظلوم يوم الحساب اليوم والنصر للمظلوم لو يقطعوا زادك يكلهم يشربهم
يلي انت مرعبهم واصل وعذبهم يلي انت مرعبهم واصل وعذبهم يدك على زنادك تمحي معالمهم يوم الحساب اليوم والنصر للمظلوم
يوم الحساب اليوم
النصر للمظلوم
لو يقطعوا زادك كلهم يشربهم
Alors, le moment suivant, c'est évidemment l'intervention militaire à partir de mars 2015, où l'Arabie saoudite, à la tête d'une... Bon, c'est une coalition, même si au début c'est essentiellement l'Arabie saoudite, se lance dans des actions militaires au Yémen. Donc, bon, la question c'est pourquoi se lancer dans cette galère, en quelque sorte. J'imagine bien qu'à l'origine, ils étaient probablement optimistes. Mais en vrai, il s'agit quand même de quelque chose d'assez ambitieux, c'est-à-dire vouloir rétablir de l'ordre dans cette situation chaotique. Et traditionnellement, c'est pas vraiment l'idée qu'on se faisait du royaume saoudien, ce rôle d'intervention militaire stabilisatrice dans des pays étrangers, quand bien même ce serait dans leur environnement. Donc, bon, pour la poser de manière un peu provocante peut-être, est-ce que les Saoudiens ne se seraient pas un peu pris pour des Américains à ce moment-là?
D'abord, le contexte de prise de décision début 2015, qui mène au lancement de l'intervention à la fin mars, est important. Parce que le roi Abdallah meurt en janvier 2015, il typifiait la politique étrangère prudente, consensuelle, avec une très grande aversion au risque qui avait caractérisé la politique étrangère saoudienne depuis des décennies. Il meurt, il est remplacé par le nouveau roi Salman, son demi-frère, et rapidement, on se rend compte que le fils de Salman, Mohammed bin Salman, qui deviendra plus tard le prince héritier, mais qui est déjà très influent, va lancer cette intervention-là, en partie au nom d'une nouvelle identité saoudienne, une nouvelle identité internationale saoudienne, beaucoup plus agressive, avec une beaucoup plus grande tolérance au risque, qui va chercher à, notamment, contenir l'Iran de manière beaucoup plus agressive. On le voit dans les années qui suivent au Qatar, avec l'embargo sur le Qatar en 2017, la prise en otage de facto du premier ministre libanais brièvement à ce moment-là. On l'a vu en 2018 avec la fameuse dispute diplomatique entre l'Arabie saoudite et nous ici au Canada, qui était vraiment un choc un peu là, au niveau de l'agressivité de la rhétorique saoudienne en particulier. Au Yémen, ça s'inscrit dans cette tendance-là, d'une plus grande agressivité saoudienne au niveau régional. Pourquoi spécifiquement? Officiellement, la coalition a deux objectifs. Rétablir le gouvernement internationalement reconnu du président Hadi, qui a été expulsé de Sanaa et éventuellement du pays au complet par les Houthis. Et deuxièmement, refouler les Houthis, qui sont effectivement proches de l'Iran et soutenus par l'Iran. 7 ans plus tard, on en arrive bientôt à l'anniversaire de 7 ans de cette intervention-là, c'est à plusieurs égards un désastre total. Premièrement, le gouvernement internationalement reconnu de Hadi demeure en exil. Il y a certains moments où il a essayé de s'établir en partie à Aden, la métropole du Sud, mais avec un succès au mieux limité. Et deuxièmement,
ils sont où actuellement?
Un peu partout, mais beaucoup à Riyad. Dans
des hôtels de luxe. Ce qui, évidemment, comme vous pouvez imaginer, n'aide pas leur légitimité du tout aux yeux des Yéménites. L'autre aspect sur lequel la coalition a échoué lamentablement, c'est l'autre objectif qui était de refouler les Houthis. Aujourd'hui, les Houthis sont exponentiellement plus forts politiquement, institutionnellement, militairement, qu'ils ne l'étaient en 2015. Donc, si on juge la coalition sur la base de cet objectif-là, c'est un échec lamentable. Les relations entre les Houthis et l'Iran aujourd'hui sont beaucoup plus proches qu'elles ne l'étaient à la fin 2014. À la fin 2014, l'Iran envoyait aux Houthis des armes légères, un peu d'argent, un peu de renseignement, un peu de soutien technique. C'est pas négligeable, mais c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, l'Iran fait encore ça, le fait plus d'armes légères, plus de grenades, plus de munitions, plus d'argent, plus de soutien technique, mais l'Iran a aussi envoyé aux Houthis de la technologie, des pièces détachées pour assembler des drones et des missiles, y compris des missiles balistiques, qui aujourd'hui ont une portée d'au moins 1500 km. Les Houthis n'étaient absolument pas capables de faire ça avant 2015 et il n'y a aucune façon qu'ils auraient acquis ces capacités-là et la connaissance pour utiliser ces capacités-là par eux-mêmes. Donc, dans ce sens-là, l'intervention saoudienne est devenue un peu une prophétie autoréalisatrice. Elle cherchait à contenir l'Iran, mais en fait, ouvert grand la porte.
Mais alors, justement, pourquoi est-ce que... C'est-à-dire, d'une part, comment est-ce qu'ils s'y prennent? On sait que l'Arabie saoudite a... probablement des problèmes militaires, notamment un manque d'expérience. Mais bon, s'il y a bien un problème qu'elle n'a pas, c'est le manque de moyens et d'équipements. Puisque ça fait quand même des décennies qu'ils achètent tous les meilleurs équipements militaires du monde. Donc, en quelque sorte, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Comment est-ce qu'ils décident de mettre à profit ou pas cette supériorité technologique dans le champ de bataille? Alors après, il faut caractériser ce champ de bataille au Yémen. Et puis, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça s'enlise? Comment est-ce que les outils... parviennent malgré tout à résister à cette superpuissance à l'échelle régionale.
Vous avez fait la comparaison dans la précédente question avec les États-Unis. Alors, on pourrait poser la même question. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas réussi à vaincre une insurrection en Irak ou en Afghanistan, tant qu'à ça avec les talibans, qui étaient infiniment moins puissants au niveau militaire conventionnel? Les situations en Irak, en Afghanistan, au Yémen sont très différentes. Il ne faut pas du tout pousser l'analogie trop loin. Mais le parallèle demeure, c'est-à-dire que les Houthis, effectivement, sont beaucoup plus faibles que les Saoudiens et les Émiratis, hein, qui sont eux aussi actifs militairement. Les autres membres de la coalition, c'est largement symbolique, là, comme à quelques exceptions près, comme contribution. Les Saoudiens et les Émiratis ont le contrôle total de l'espace aérien. Ils ont effectivement une armée aérienne, une force aérienne, pardon, très efficace avec des avions chasseurs qu'ils ont acheté des États-Unis, de la France, dans le cas des Émiratis aussi, qui sont très efficaces. Les Houthis n'en ont pas.
Au niveau de l'artillerie, tout ça,
c'est beaucoup plus puissant. Ce que les Houthis ont, c'est premièrement le contrôle de la géographie. Le nord-ouest du pays, les régions qu'ils contrôlent sont montagneuses, arides, escarpées, et les Houthis sont extrêmement efficaces à manipuler cette géographie-là. Ils ont l'avantage du terrain, la connaissance du terrain, le renseignement sur le terrain que les Saoudiens et les Émiratis n'ont jamais développé. Il y a une question de compétence aussi. Dans le cas des Saoudiens en particulier, beaucoup moins les Émiratis, les Saoudiens n'ont pas démontré, et 7 ans plus tard, ce qui est triste du point de vue des Saoudiens, tragique de leur point de vue, vraiment de leur point de vue, c'est le fait qu'ils s'améliorent relativement peu dans leur capacité à utiliser cet équipement de pointe-là. Ils demeurent très dépendants du soutien américain. Leur capacité à viser, à collecter du renseignement, à intégrer le renseignement dans les processus de targeting, etc., ils s'améliorent, mais pas tant que ça. Les Émiratis, beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus compétents. On pourra en parler plus tard si vous voulez. Alors,
les Houthis,
malgré le soutien militaire iranien, demeurent beaucoup plus faibles que les Saoudiens au niveau conventionnel. Mais ça, on pouvait dire ça des talibans en Afghanistan aussi. Les Houthis ont le contrôle du terrain et les Saoudiens n'ont jamais été capables de leur enlever ça.
Mais alors, comment est-ce que ça se concrétise? C'est-à-dire, bon, on sait qu'ils ont le contrôle de la troisième dimension, évidemment, qu'il y a des moyens de renseignement technologiques, évidemment, aussi. Mais est-ce que les Saoudiens ont engagé des troupes au sol, les Émiratis aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont mis le paquet ou est-ce que c'est ce qu'on a vu parfois, quoi. C'est-à-dire si c'est très bien de contrôler la troisième dimension, mais sans des boots on the ground, c'est quand même toujours... Alors, même quand on le fait, c'est difficile de contrer des guérillas parfois, mais sans, c'est en tout cas absolument impossible.
C'est une bonne question, ça. Puis le gros des combats terrestres contre les Houthis, c'est des troupes yéménites qui en sont responsables, soit l'armée nationale et les éléments de l'armée nationale qui sont demeurés loyaux au président Hadi. Il y en a qui sont en ligne avec les Houthis maintenant, des milices tribales, régionales, locales qui sont en ligne. J'hésite même à utiliser le mot loyal parce que je ne suis pas sûr qu'elles sont nécessairement loyales, mais pour le moment en ligne avec les forces pro-gouvernementales qui se battent contre les Houthis. L'Arabie saoudite a des troupes présentes sur le terrain, moins aujourd'hui qu'au début, parce que c'était coûteux, non seulement financièrement, mais politiquement aussi. Et ces troupes-là sont principalement un peu derrière les lignes de front pour faire toutes sortes d'autres choses, le soutien aux forces yéménites, etc., etc. Dans le cas des Émirats, on a vu un peu une évolution comparable. Le problème ici, c'est que ces troupes yéménites-là sont très inégales. Il y a certaines de ces unités-là, de ces milices-là, qui sont compétentes, organisés, bien menés, relativement bien équipés, mais ce n'est pas le cas de toutes. C'est vraiment pas le cas de toutes. Et deuxièmement, elles sont très divisées. Depuis tantôt, on parle des forces pro-gouvernementales, mais en pratique, c'est une fiction. La coalition qui, en théorie, combat les Houthis, en pratique, est fragmentée, divisée, mal gérée. Dans plusieurs cas, il y a des éléments de cette coalition-là qui se sont battus entre eux, et non pas contre les Houthis seulement. Alors, cette absence d'unité-là, cette division-là, favorise énormément les Houthis, qui ont leur propre division interne, comme n'importe quel autre mouvement, mais qui, en pratique, sont beaucoup plus unifiés sur le terrain, mais en termes de leur chef de commandement aussi, par rapport aux forces pro-gouvernementales.
Ce que j'allais dire, c'est comment est-ce que ça se caractérise du point de vue des Houthis? C'est-à-dire déjà dans les régions, parce que bon, on peut pas, on y reviendra, mais on peut pas totalement écarter le fait qu'ils continuent à gagner du terrain et voir qu'ils contrôlent une grande partie du territoire yéménite à terme. À quoi est-ce que ça ressemble, les régions qu'ils contrôlent? Quel genre de régime ils mettent en place? Parce que ça préfigure peut-être des choses. Et puis aussi, dans quelle mesure est-ce qu'ils gagnent en ambition? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils montent en technologie. On peut mentionner tout le monde qu'en fait, ils commencent à faire peser des très sérieuses menaces sur le commerce maritime autour du Bab el-Mandeb, parce qu'ils ont des gros missiles qui peuvent taper des tankers. Bref, comment est-ce que, si on inverse un peu le prisme, si on arrête de regarder les outils de loin et qu'on les regarde un peu de près, comment est-ce que ça se caractérise, cette montée en puissance?
Ça, c'est une question très importante qui a des implications majeures pour l'avenir. Les Houthis, aujourd'hui, contrôlent des pans entiers de territoire du côté ouest du pays, surtout le nord-ouest. Ils descendent assez bas vers le sud, mais pas tout à fait jusqu'à la côte sud. En termes de proportion, c'est difficile à dire à quoi ça correspond à l'échelle nationale parce qu'il y a tellement de zones qui sont floues, mais c'est pas la majorité parce qu'il y a tout le grand désert de l'Est qui est pratiquement vide dans lequel les Houthis sont pas vraiment présents. Au niveau de la population, le chiffre qui est sous leur contrôle varie entre 50 et 70 %. 70 %, ça me semble un peu beaucoup. Mais c'est probablement au moins 50 %. Il y a eu des déplacements de population, c'est difficile de mesurer précisément sur le terrain. On est dans ces eaux-là. Le point qui est essentiel, c'est que ce qu'on voit depuis quelques années, il y a peu de médias fiables sur le terrain, mais il y a assez de rapports qu'on voit sortir des activistes, des journalistes locaux, etc., pour voir que l'administration que les Houthis sont en train de construire à Sanaa, qui contrôle maintenant la capitale, évidemment, depuis presque 8 ans, Elle est obscurantiste, elle est brutale, elle est répressive et c'est dire quelque chose qui est évident, mais elle n'est absolument pas démocratique. Et ça, c'est problématique. C'est problématique pour les Yéménites qui vivent sous cette administration-là parce qu'elle est extrêmement répressive, mais c'est aussi problématique pour l'avenir et c'est une des raisons pour lesquelles, comme je le disais tantôt, je ne suis pas du tout optimiste pour la perspective d'un processus de paix. Parce que ce que les Houthis sont en train de construire, c'est un système totalitaire qui n'est absolument pas intéressé au compromis. En théorie, une solution pour en arriver à la phase post-conflit doit voir tous les belligérants, les membres, les belligérants importants, avec des membres de la société civile, s'asseoir à table. Là, évidemment, je simplifie un processus de paix, mais en bout de ligne, ça revient à ça. S'asseoir à la table, négocier, discuter et en arriver à une entente plus ou moins consensuelle. Les Houthis, aujourd'hui, sont excessivement intransigeants et n'ont démontré aucune intention de vouloir faire des compromis de ce genre-là. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les Houthis veulent contrôler le plus possible, ne sont pas intéressés aux compromis, mais ne sont pas capables de prendre le pays au complet, y compris tout le grand désert de l'Est, des parties du Sud. Alors, c'est pour ça qu'on est pris dans cette espèce d'équilibre-là, instable, dangereux, mais duquel il n'y a pas de sortie évidente.
À l'opposé, il faut peut-être aussi dire un mot de ce que ça représente sur la scène internationale. Alors, la guerre au Yémen, c'est souvent critiqué dans les opinions publiques occidentales, disons, sous l'angle du désastre humanitaire. Déjà, on peut peut-être en parler. J'ai donné les chiffres liminairement, de 350, 400 000 morts, peut-être plus maintenant. Voilà, commençons par là. Déjà, pourquoi et comment est-ce que cette situation militaire est tactique? Mais après tout, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de raison. C'est-à-dire, en Afghanistan, bah, y a eu des combats pendant très longtemps. Il n'y a pas eu non plus de mortalité de masse à l'échelle nationale. Pourquoi est-ce que là, cette situation militaire et tactique, ça se traduit par un corollaire de désastre humanitaire à ce point-là?
Alors, les chiffres précis de la situation humanitaire ne sont pas connus, dans le sens où on peut avoir des estimations, mais en raison de la difficulté d'avoir des informations fiables sur le terrain, ce n'est pas évident. L'ONU, différentes ONG, le Conseil des réfugiés norvégiens, par exemple, ont une présence sur le terrain, mais c'est imprécis. 200, 300, 400 000 morts, on est dans ces eaux-là. 70, 80, 85 % de la population qui est en situation de besoin aigu au niveau humanitaire. Plus d'un million de cas de choléra, qui est évidemment un chiffre extraordinairement percutant parce que c'est une maladie qui devrait être éliminée aujourd'hui. Le problème avec cette situation-là, c'est qu'il n'y a pas de solution évidente. Et vous parliez du rôle international, de l'intervention internationale, des débats auxquels ça donne lieu. Il n'y a aucune solution évidente. Et on voit beaucoup de gens, à gauche en particulier, mais aussi dans la droite libertaire aux États-Unis, mais dans la gauche aux États-Unis, ici au Canada, même si notre rôle est évidemment marginal, en Europe aussi, qui demande l'arrêt de tout soutien américain, français, britannique à l'intervention saoudienne, au nom du principe selon lequel cette intervention-là est immorale. Elle a mené à plusieurs crimes de guerre, ce qui est entièrement vrai. Au niveau des crimes de guerre, au niveau de son immoralité, j'aurais tendance à être d'accord aussi. Le problème, c'est que la solution est pire que le problème actuel, dans le sens où si les États-Unis principalement, mais aussi la France et la Grande-Bretagne, arrêtaient leur soutien à l'Arabie saoudite et aux Émirats, le gouvernement Hadi, internationalement reconnu, serait au minimum largement affaibli et risquerait de s'effondrer. Quand, je ne sais pas, comme le gouvernement afghan en quelques heures ou en quelques semaines ou quelques mois, on ne peut pas prédire, mais il ne survivrait pas. Et à ce moment-là, les Houthis prendraient le contrôle du pays, ou en tout cas d'un plus grand contrôle du pays, pas nécessairement le pays en entier, ce qui n'améliorerait pas la situation et peut-être même l'empirerait. Alors, c'est dans ce sens-là où les pays occidentaux, mais aussi les Saoudiens, sont pris dans un bourbier. La solution actuelle ne fonctionne pas. Elle a contribué à un désastre humanitaire, mais aussi stratégique. Mais se retirer empirerait les choses.
Mais ouais, c'est un cas très intéressant parce que par ailleurs, il y a toute cette problématique vraiment humanitaire et même d'arrivée de l'aide humanitaire. Enfin, ça ressemble à beaucoup des conflits africains des années 90 et 2000. C'est-à-dire, on a vu qu'encore récemment, au début 2021, je crois, Joe Biden a retiré les Houthis de la liste des organisations terroristes précisément parce que ça empêchait d'amener de l'aide humanitaire au Yémen et que bah, du coup ça empirait la crise, ça empirait les victimes. Donc on est dans une sorte de contradiction entre les intérêts de l'allié, qui est évidemment un allié très pratique, les Saoudiens, parce qu'ils aident sur plein d'autres choses, des intérêts humanitaires parce qu'on ne peut pas, on peut pas laisser cette crise s'empirer. Et puis une position de principe qui est faible, qui est qu'on n'aime pas les Houthis, mais en même temps on ne sait pas très bien comment les gérer étant donné leur situation sur le terrain, quoi.
Ce débat-là autour de la nomination des Houthis sur la liste des entités terroristes étrangères aux États-Unis illustre bien le dilemme. C'est-à-dire que l'administration Trump, pour faire plaisir aux Saoudiens, pas pour des motifs réels, c'est-à-dire les Houthis sont des terroristes, l'administration Trump a mis les Houthis sur la liste des entités terroristes étrangères à la fin de son mandat. Ça fait plaisir aux Saoudiens. L'administration Biden les a enlevés au début. Et le débat a repris tout récemment, notamment suite à l'attaque aux trois séries d'attaques des Houthis sur les Émirats arabes unis, où semble-t-il que les attaques aux missiles et aux drones, le gouvernement émirati aurait demandé aux Américains de les rajouter sur la liste. Si on regarde le pour et le contre d'une telle décision, et j'analyse ça en termes de pour et contre, parce que la réalité de la liste des entités terroristes aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, la question à savoir si le groupe est réellement terroriste ou non est secondaire. Hein, c'est un calcul stratégique que les États-Unis font. Est-ce que les Houthis sont un groupe terroriste? Ben, ils ont commis des actes qui sont certainement terroristes. Ça je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute sérieux à avoir là-dessus. Là. Au niveau du contre, et c'est la raison pour laquelle l'administration Biden les a enlevés très rapidement, c'est que l'acheminement de l'aide humanitaire est déjà extrêmement difficile au Yémen, en raison de la géographie du pays, montagneuse, les routes détruites, etc., de la situation sécuritaire sur le terrain, mais aussi du fait que, surtout les Houthis, mais le gouvernement aussi, sont tellement corrompus dans le cas des Houthis, incompétents dans le cas du gouvernement, que ça rend ça très difficile. En mettant les Houthis comme entité terroriste, toute organisation internationale humanitaire qui ferait affaire avec eux pourrait se ramasser à avoir des problèmes avec les États-Unis parce qu'ils coopéreraient avec une entité terroriste. En théorie, il y a des exemptions à ces protocoles-là. En pratique, tout le monde est d'accord pour dire que ces protocoles-là ne fonctionnent pas vraiment et que ça nuirait grandement au travail des organisations humanitaires. Donc, ça empirerait la crise qui est déjà aiguë. Ça, c'est l'argument principal contre. L'argument en faveur, c'est que les États-Unis aujourd'hui ont très peu d'outils pour mettre de la pression sur les Houthis. En anglais, on appelle ça du leverage, des outils qui permettraient aux États-Unis de négocier avec les Houthis dans le cadre d'un éventuel processus de paix. Les États-Unis peuvent faire peu de choses contre les Houthis. Contre la Russie, contre l'Iran, on peut imposer des sanctions économiques, financières, commerciales, autres. Contre les Houthis, ces moyens-là ont très peu de prise.
Vous voulez dire que si on exclut les outils du système bancaire international, ça va avoir assez peu d'effet sur le régime?
Aucun effet, aucun. Et il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de transactions financières, etc. Le problème, c'est que de les mettre sur la liste des entités étrangères en disant « en échange de concessions à l'avenir, on va vous retirer », c'est une idée qui a un certain attrait. Au niveau du bargaining diplomatique, j'y suis partiellement sympathique en théorie, mais en pratique, la majorité des spécialistes vont dire pas vraiment.
Mais alors, bon, là, puisqu'il faut essayer de trouver des solutions, on a dit, il faut pas non plus considérer que les Houthis sont des proxys de l'Iran, puisque c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, mais on pourrait penser qu'une partie de la solution, ce serait d'affaiblir leur soutien. En tout cas, ça permettrait de mitiger, disons, les dommages qu'ils peuvent faire, notamment, on imagine bien que, on l'a pas dit, mais donc, enfin, vous l'avez mentionné rapidement, mais ils font des frappes de drones aux Émirats, ils balancent des missiles de très longue portée sur les navires qui passent le Bab el-Mandeb. Enfin, ouais, ils commencent à se construire une réelle capacité de nuisance. On pourrait imaginer que peut-être ça ne résoudra pas vraiment la solution sur le terrain, mais qu'une option, ce serait que la solution se joue un peu à Téhéran et que ça passe par une amélioration des relations avec l'Iran, une diminution des tensions, ce qui est encore une autre série de problèmes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de cette tentation que, voilà, peut-être que c'est par une négociation, peut-être que c'est à l'échelle un peu supérieure, un peu plus large, que les ferments d'une solution pourraient être trouvés.
C'est le genre de proposition qui, en théorie, a un certain attrait, a une certaine logique, mais qui, en pratique, fait face à trop de défis pour être réaliste. De raisons. Premièrement, l'Iran a consolidé ses liens avec les Houthis de manière exponentielle, comme on le disait rapidement tantôt, depuis 7 ans, et l'Iran ne va pas abandonner ça. Aujourd'hui, les Houthis sont un des partenaires les plus importants, les plus utiles pour l'Iran, au même titre que le Hamas ou le Hezbollah ou différents groupes en Syrie ou en Irak, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Comme je disais tantôt, les Houthis étaient clairement secondaire dans l'échelle de priorité là, de l'Iran. Alors aujourd'hui, l'Iran, je ne vois pas de scénario dans lequel l'Iran accepterait de diminuer ces relations-là parce qu'elles sont devenues tellement importantes. Est-ce que s'il y avait un rapprochement général, une réconciliation totale ou partielle entre l'Iran et ses adversaires régionaux ou les États-Unis, ça irait mieux? Oui, mais en pratique, ça n'arrivera pas. En Iran, aujourd'hui, le régime n'est pas intéressé à ce rapprochement-là. Aux États-Unis, je crois que quand des gouvernements comme des présidents comme Biden ou Obama ont essayé, l'opposition interne, et pas seulement chez les républicains, même chez les démocrates, était tellement majeure à tout rapprochement avec l'Iran que ça n'arrivera pas. Les partenaires locaux des États-Unis, on pense principalement à Israël, Émirats, Arabie Saoudite, acceptent à peine une entente sur le nucléaire, que tout mouvement supplémentaire serait extraordinairement compliqué. Alors,
vous voulez dire que le désastre humanitaire au Yémen n'apparaît pas suffisamment, avec suffisamment d'urgence pour modifier tous les équilibres géopolitiques et stratégiques du Moyen-Orient?
Exactement.
Très bien. Donc, on aura compris que cette situation apparaît évidemment un peu triste, disons, les perspectives sont pas forcément très réjouissantes. On verra évidemment comment ça va évoluer, notamment comment l'Arabie Saoudite pourra se tirer ou pas du guépier et de l'embourbement militaire au Yémen. Merci beaucoup, Thomas Junot.
C'est moi qui vous remercie.
Je vais signaler qu'il y a énormément de vos articles sur la situation au Yémen que je mettrai en lien dans la description de l'épisode, notamment un très bel article dans War on the Rocks où vous approfondissez les relations entre les Houthis et l'Iran, et que évidemment c'est une ressource précieuse pour ce conflit qui est, comme on l'aura compris, un peu difficile à saisir, notamment depuis l'Europe. C'est donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.